magazine que vous allez suivre est une rediffusion. Religion du Monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. 3000 pages rassemblant les travaux de 30 spécialistes du monde entier, le Coran des historiens, synthèse monumentale publiée aux éditions du CERF à la fin de l'année 2019, est un événement éditorial appelé à durer dans le temps. Avec nous dans ce studio, les deux co-directeurs qui ont dirigé cette somme, deux islamologues reconnus, Mohamed Ali Amir Mouedzi, professeur à l'EPHE, l'école pratique des hautes études, auteur de nombreux travaux sur l'islam chiite et l'histoire et la rédaction du Coran. Et Guillaume Di, professeur d'islamologie à l'Université libre de Bruxelles, spécialiste de l'histoire des débuts de l'islam. À vous deux, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et merci pour votre présence dans ce studio. Alors, ensemble, pendant cette petite heure, nous allons décrypter cette grande synthèse. À quoi correspond-elle? Ce qu'elle apporte de nouveau? Quelle a été la méthode utilisée et ce qu'elle peut changer? Les polémiques aussi qu'elle peut susciter auprès de musulmans qui voient dans le Coran un texte sacré incréé contenant la parole divine qui n'a pas à être un objet d'étude ni d'interprétation. En somme, un texte qui se suffit à lui-même et peut traverser le temps. Et puis polémique aussi auprès des contempteurs de l'islam qui voient dans le Coran uniquement un texte légitimant la violence et qui vont trouver dans ce travail un regard distancié qui ne se veut ni à charge ni à décharge sur les sourates, donc et les versets du Coran passés au tamis de l'étude. Alors, on commence avec vous deux par le titre, le Coran des historiens. Comment faut-il traduire ce titre? Je commence avec vous, Ali Amir Mouedzi.
Le Coran des historiens, c'est-à-dire le Coran étudié par des historiens, c'est-à-dire qui applique à ce texte les méthodes historiques et philologiques. Ce qui est peut-être la spécificité de ce livre, c'est que donc tous les auteurs, nous sommes effectivement une trentaine, sont des historiens et des philologues, des linguistes, des archéologues, des épigraphistes, des codicologues, etc. Et donc, c'est-à-dire que ce qui est peut-être la spécificité la plus, je dirais, forte de ce livre, c'est que nous avons considéré, perçu le Coran comme un texte historique, littéraire, religieux, appartenant à son temps et à son lieu, c'est-à-dire au 6e, 7e siècle de l'ère chrétienne, et qui s'est développé donc dans cette immense région que nous appelons maintenant le Proche et le Moyen-Orient. Et donc ce qui n'intervient pas dans notre approche, ce sont des points de vue confessionnels. Ce qui est propre à ce livre, c'est que d'une certaine manière, c'est le Coran, je dirais, avant l'islam. C'est-à-dire que nous avons eu que très rarement recours à la tradition textuelle islamique. Donc, c'est le Coran comme texte à l'état brut, avant les filtres exégétiques et interprétatifs de la tradition islamique. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on entend le titre « Le Coran des historiens ».
Guillaume Di.
Oui, tout à fait. C'est l'idée qui consiste à voir le Coran comme un document historique, littéraire, linguistique et religieux qui se développe lors du 7e siècle et que l'on étudie comme on étudierait, je dirais, n'importe quel texte du 7e siècle. Et de ce point de vue, notre approche, évidemment, d'un texte qui est sacré pour certains, est en fait une approche profane, sécularisée, tout à fait comparable à ce que peuvent faire nos collègues dans les études bibliques ou néo-testamentaires. Et effectivement, les historiens aujourd'hui des débuts du christianisme ou du judaïsme du Second Temple, lorsqu'ils étudient en tant qu'historiens, par exemple, l'évangile selon Matthieu, ne vont pas se fonder principalement sur le commentaire d'Origène qui est fait quelques siècles plus tard pour interpréter ce texte, mais vont le lire, ils vont tenter de le lire dans son contexte historique, son époque, et l'état de la littérature religieuse de son époque. Eh bien, c'est aussi ce que nous avons voulu faire, contrairement à une approche du Coran, peut-être il y a quelques décennies, dans le monde occidental, qui était très tributaire de la littérature islamique postérieure de plusieurs siècles au Coran, et qui donc interprétait tel ou tel passage du Coran en se fondant principalement sur les commentaires classiques médiévaux, qui ont leur intérêt, mais qui ne sont pas des commentaires d'historiens. Eh bien, nous avons au maximum cherché à comprendre le Coran par rapport à la documentation matérielle et littéraire qui est disponible, qui existe pour les 6e, 7e siècles.
Qui sont aujourd'hui les chercheurs parce que vous parlez d'un bouillonnement autour du Coran, un bouillonnement qui a commencé dans les années 70, qu'il y a énormément de matériaux en réalité, mais que ces matériaux-là de recherche, de découverte, n'ont pas été exploités, n'ont pas été synthétisés, ce que vous avez, vous, essayé de faire dans le Coran des historiens.
C'est-à-dire que, si vous voulez, l'étude scientifique du Coran commence, on pourrait dire, dans la première moitié du 19e siècle en Allemagne et surtout parmi les biblistes, les spécialistes de la Bible. Début du 19e siècle jusqu'aux années 1970, il y a eu quelques grandes figures l'étude scientifique du Coran. On ne va pas les citer tous, mais quand même, je veux dire, il y a quand même quelques aînés avant nous. Et des géants.
Abraham Geiger, par exemple.
Abraham Geiger, oui. Nol Deke et d'autres.
Schrödinger, Casanova, Thor André, Richard Betts. On a vraiment toute une grande littérature. Mais peut-être aussi, on peut le dire, en termes de nombre de personnes travaillant sur le Coran, une masse critique nettement plus faible que pour l'étude biblique ou néo-testamentaire dans le monde occidental. Ce qui est aussi quelque chose qui peut expliquer la trajectoire un peu différente, comprise les études coraniques.
Alors, si vous voulez, il y a eu quelques grands moments, justement, qui ont contribué à ce bouillonnement dont on parle dans notre introduction. Bon, les années 70, surtout, je dirais, en Angleterre, à Oxford et à Cambridge, des grands noms comme Patricia Crone, qui était danoise, qui est décédée malheureusement maintenant, Michael Cook qui est écossais, qui est à Princeton actuellement, et leur maître John Wansbrough qui était américain, mais au même moment en Allemagne, quelqu'un comme Günther Lühling, donc qui ont véritablement, je dirais, révolutionné en quelque sorte, entre guillemets, les études coraniques, bien qu'ils aient suscité beaucoup de débats, beaucoup de leurs thèses ont été débattues, parfois même reniées par les auteurs eux-mêmes, mais ils ont créé une dynamique extrêmement féconde, et puis peut-être un deuxième tournant au début des années 2000, là aussi surtout en Allemagne, et ce qui est, moi je pense, ce qui caractérise ces tournants-là, sur les plans méthodologiques et épistémologiques, c'est deux faits, c'est-à-dire le fait qu'il faut accorder très peu de crédit aux sources islamiques pour ce qui est l'histoire du Coran, et pour ce qui est l'histoire de la naissance de l'islam.
Pourquoi ?
Parce que ce sont des textes qui ont été écrits dans un contexte extrêmement trouble, c'est-à-dire de guerre civile entre les musulmans qui a duré des débuts de l'islam jusqu'à pratiquement 3 siècles, d'une part, et puis un phénomène historique extrêmement important, c'est-à-dire les conquêtes arabes et la naissance de l'Empire. Donc ce sont des phénomènes historiques extrêmement importants qui ont eu des implications
politiques,
majeures, mais bien sûr, parmi les premiers fidèles et pendant plusieurs décennies. Et donc, si vous voulez, ceux qui écrivaient sur cette période-là, sur la naissance de l'islam, sur l'islam des origines et sur la naissance du Coran, appartenaient très souvent à des factions qui étaient en guerre les unes contre les autres.
Oui, vous avez le groupe dominant et le groupe des dominés, quoi, c'était ça.
Et
en fait,
même plus compliqué que ça, il y avait plus que deux groupes. Il y avait
des groupes. Oui.
Et puis donc, c'est beaucoup de ces sources-là sont très tardives par rapport à cette période originelle. Et donc, si vous voulez, chacun veut donner une représentation qui va dans le sens de ces idéologies théologico-politiques.
Et de ses intérêts.
Donc c'est pour cela que, si vous voulez, ces textes-là sont très peu crédibles, donc je précise, pour ce qui est les origines de l'islam et le Coran. On peut leur accorder un certain crédit pour d'autres événements qui ont moins d'enjeux, mais pour ces questions-là, donc il faut les regarder avec énormément de précautions. Et d'autre part, un autre élément qui est extrêmement important, c'est l'intégration par ces courants, par ces savants, des textes non islamiques contemporains dans l'étude du Coran et des origines de l'islam, c'est-à-dire des textes chrétiens, surtout de langue syriaque, des textes juifs, des textes zoroastriens, des textes manichéens, des textes éthiopiens, et puis l'histoire matérielle, c'est-à-dire ce que nous apporte l'archéologie, l'épigraphie, la codicologie, etc. Donc tout cela a fait que, si vous voulez, depuis les années 70 et encore plus depuis les années 2000, il y a une multiplication des études sur le Coran. Donc il y a des courants, il y a effectivement dans différents pays, il y a des approche différente. Donc, je laisserai la, peut-être la parole à Guillaume Di pour parler de notre équipe et peut-être ce qui la distingue des autres courants.
Oui, Guillaume Di.
Oui, pour rebondir aussi sur ce que disait Ali à propos justement de ces sources islamiques, elles sont très utiles et nous renseignent beaucoup sur les mentalités des musulmans au 9e siècle, par exemple, ou au 10e, ou peut-être à la fin du 8e. Les prendre pour argent comptant et considérer qu'elles nous donnent une fenêtre fiable sur les éléments du 7e est quelque chose de beaucoup plus risqué. Les savants occidentaux s'étaient rendus compte de cela dès la fin du 19e siècle, mais assez curieusement, il y avait une forme de réticence à pousser au maximum l'argument sur ces questions, les questions concernant l'histoire même du texte coranique, je dirais. Ça, c'est un premier point. Et donc, on peut évidemment, et on prend en compte les sources islamiques dans nos travaux, il suffit de lire les bibliographies dans le volume 1, par exemple, mais comme souvent, l'historien, qui est un peu un rabat-joie, hein, finalement. L'historien...
Un vérificateur.
Voilà, mais aussi un rabat-joie, souvent. Hein. Donc, l'historien a tendance à les prendre à rebrousse-poil, si je puis dire, et pas forcément donc à suivre le cadre général qu'elles indiquent. Et, effectivement, comme l'a dit Ali, on prend de plus en plus en compte les sources non-islamiques. Alors, aussi bien les sources non-islamiques du 7e siècle, qui sont les plus anciennes, à part le Coran, à nous parler de la naissance de l'islam, mais également la littérature religieuse juive et chrétienne de la fin de l'Antiquité, avec laquelle le Coran entretient des relations très étroites. Et là-dessus, avant de présenter l'équipe elle-même, ce qu'on peut dire aussi, c'est que il est devenu aujourd'hui courant de dire que le Coran est un texte de l'Antiquité tardive. Alors c'est un peu un slogan, mais ça dit bien ce que c'est. C'est un texte qui est de plein pied dans le monde intellectuel, culturel et religieux du Proche-Orient tardo-antique, donc dans le monde de ces grandes traditions monothéistes que sont le christianisme, le judaïsme, le manichéisme par exemple. Mais il y a eu aussi, en même temps qu'il y avait cette révolution en cours sur le Coran, des révolutions dans des domaines connexes. Alors on le voit très bien avec le chapitre de Christian Robin, qui est le premier chapitre du volume 1, l'étude de l'histoire de l'Arabie pré-islamique a totalement changé en quelques décennies. Là aussi, à une époque, on se fondait essentiellement sur les sources littéraires musulmanes très largement postérieures sur l'Arabie pré-islamique. On se fonde aujourd'hui sur l'archéologie et l'épigraphie, qui donnent une image très différente. L'étude, l'édition de textes syriaques, par exemple, qui sont si important, je dirais, dans le cadre de la compréhension du monde intellectuel dans lequel le Coran opère et dans lequel opèrent les rédacteurs du Coran. Pour prendre un exemple simple, certaines œuvres de Narsaï, donc père de l'Église syriaque et qui meurt au début du 6e siècle et qui a joué un rôle très important, enfin dont on voit des traces dans le Coran lui-même, eh bien ces œuvres n'étaient pas éditées, par exemple, à l'époque où Blacher traduit le Coran il y a un demi-siècle. Donc c'est vraiment un changement considérable qui se fait, non seulement dans l'approche que nous avons aujourd'hui du Coran, mais également dans les documents que nous avons à notre disposition aujourd'hui pour travailler sur l'émergence de l'islam et sur le Coran.
Ali Amir Mouedzi.
Simplement, avant de passer à notre équipe, je vous donne un exemple, hein, pour que les choses soient un peu plus claires. Si on se fie aux sources islamiques, l'Arabie pré-islamique, enfin, la période de pré-islamique de l'Arabie est appelée la période de l'ignorance, c'est-à-dire la période des polythéistes, des idolâtres, n'est-ce pas ? L'Arabie est plongée dans l'obscurité de l'ignorance et du polythéisme. Donc ça, si vous voulez, ce sont des données, je dirais, apologétiques. Mais justement, le chapitre, entre autres, hein, de Christian Robin sur l'Arabie pré-islamique, montre que ce n'est absolument pas le cas. C'est-à-dire que
c'est moins polythéiste, vous voulez dire, non?
Non seulement c'est moins polythéiste, mais l'Arabie...
Ça l'est très peu.
Très peu polythéiste. Très peu. Ah oui.
Et l'Arabie est située, si vous voulez, au carrefour des grandes civilisations de l'époque et des grandes civilisations monothéistes. C'est-à-dire entre la Byzance et le Yémen, entre l'Éthiopie et l'Iran. Oui. Et peut-être la preuve la plus éclatante de la chose, c'est le Coran lui-même. C'est-à-dire, à côté de quelques versets sur l'Arabie pré-islamique et ses idoles, nous avons des centaines de versets qui parlent des choses bibliques, des figures bibliques, allant de Adam et Ève jusqu'à Zacharie et Jésus-Christ, en parlant de Noé, d'Abraham, de Moïse, etc. Il y a des centaines de versets. Il y a des épisodes bibliques, aussi bien de l'Ancien Testament que de Nouveau Testament. Et puis, il y a des notions complexe. Je veux dire, lorsque le Coran appelle Jésus l'Esprit de Dieu ou le Verbe de Dieu, là, ce sont des notions christologiques extrêmement sophistiquées. Donc, on peut se demander à qui s'adresse ces épisodes-là, n'est-ce pas? Ce n'est certainement pas à des polythéistes, donc qui sont dans l'ignorance et dans le paganisme.
Donc, ce que cet ouvrage de synthèse historico-critique apporte, c'est effectivement de montrer une dynamique très importante sur les recherches concernant le Coran.
Effectivement. Et alors, c'est un domaine qui est l'objet de vastes débats, de polémiques toujours, pour tout un ensemble de raisons qu'il serait fastidieux de développer. Mais nous avons effectivement cherché à regrouper des savants qui ne sont pas tous d'accord entre eux, bien sûr, parce que le débat, je dirais, est le cœur et la raison d'être de la recherche universitaire et scientifique, mais qui partagent quand même un certain nombre de points communs, on va dire, un regard relativement comparable dans leur manière, justement, d'envisager le Coran, dans la nécessité d'insister considérablement sur le dialogue du texte coranique avec les littératures juives et chrétiennes, sur un scepticisme, je dirais, bienvenu par rapport au récit islamique traditionnel. Et ce faisant, nous avons effectivement rassemblé des chercheurs francophones et non francophones, je dirais presque de tous âges. Hein, puisque le plus jeune est l'un de mes doctorants très brillant et le plus âgé sont des professeurs à la retraite qui ont déjà une œuvre considérable derrière eux. Donc une équipe finalement qui est diverse de par les origines, de par les centres aussi de disciplinaires. Nous avons des épigraphistes, archéologues, historiens, philologues, mais qui est assez homogène en tout cas du point de vue de l'approche historico-critique qu'elle entend mener.
Alors en revanche, peu de noms quand même, je dirais, à consonance proche-orientale. C'est le reproche qu'on va vous faire, Amir Mehdi.
Je ne pense pas que ce soit... Enfin, ça ne peut pas être un reproche. C'est qu'effectivement, ça rejoint un peu, oui, je dirais, l'histoire de la recherche, oui, scientifique sur le Coran. C'est un fait que ces recherches-là ont été effectuées en Occident, ou c'est-à-dire surtout en Europe et aux États-Unis. Et je dirais, pour cause, ce genre de recherche n'a pas été véritablement, en fait, dans les pays musulmans, parce que ça heurte un certain nombre de croyances. Quoique, depuis quelques décennies, il y a eu quelques rares chercheurs qui ont essayé de mener une recherche de ce genre-là, c'est-à-dire de considérer le Coran comme un document historique ou littéraire. Et puis, bon, très souvent, ces chercheurs se sont heurtés, je dirais, à la résistance du poids de la tradition. Mais ce qui fait que, effectivement, dans cette équipe, il y a des gens d'origine musulmane, en particulier, moi-même, et puis, par exemple, quelqu'un comme Mehdi Azaïez.
Mehdi Azaïez, c'est ça, oui.
Mais je pense que votre question s'explique, la réponse s'explique par, justement, l'histoire de la recherche scientifique sur le Coran.
C'est dangereux encore aujourd'hui de chercher sur le Coran quand on est en Proche-Orient ?
Dans certains pays, certainement. Mmh. Peut-être pas dans tous les pays. Il y a des pays où les choses commencent à frémir. Paradoxalement, peut-être le pays où il y a le plus d'ouverture vers cette perception des choses concernant les origines de l'islam, c'est l'Iran. Et d'ailleurs, c'est peut-être pas par hasard que, sur les réseaux sociaux ou sur les présentations du Coran des historiens, pratiquement le seul pays musulman où on a eu des éloges, des présentations élogieuses de ce livre, c'est l'Iran. Et paradoxalement, sur les réseaux sociaux des universités théologiques.
Alors, sur le Coran, votre premier mot, Ali Amir Mouedzi, c'est de dire « c'est un texte énigmatique, contradictoire, compliqué, complexe ». Comment l'aborder ? Il faut être accompagné, nécessairement ?
Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, pas à l'aide de plusieurs disciplines.
Oui.
Justement, scientifique, des sciences humaines. Et effectivement, c'est peut-être pour ça aussi que nous avons pensé avec Guillaume Di que c'est un travail d'équipe, véritablement. C'est-à-dire, c'est le fond de la recherche qui l'exige. Alors, c'est un texte énigmatique, Bon, ça l'a été, comme l'a dit Guillaume tout à l'heure, déjà pour les premiers chercheurs sur le texte coranique. Mais je pense que ça l'a été également pour les musulmans pendant les premiers siècles de l'islam. Hein. C'est-à-dire que les sources islamiques, quand on les regarde de manière critique, contiennent des données sur le fait que ce texte posait problème aux premiers musulmans. C'est-à-dire ce que les musulmans disent, par exemple, au sujet de la chronologie de la révélation, quand on voit les contradictions concernant cette chronologie, quand ce que disent le Coran sur la composition du Coran, c'est-à-dire les données les plus divergentes que l'on trouve, ce qu'on dit sur la science de l'abrogation, c'est-à-dire le fait qu'un verset vient abrogé par d'autres. Oui. Et quand on voit combien les auteurs musulmans sont divergents eux-mêmes au sujet de ces questions extrêmement centrales, on se rend compte que le Coran était un texte problématique pour des générations entières, dès le début, les musulmans également.
Guillaume dit.
Très tôt, effectivement, quand on regarde les plus anciens commentaires, par exemple, qui sont faits sur le texte coranique, on trouve non seulement des explications divergentes, mais même des passages où les savants musulmans eux-mêmes se trouvent incapables d'expliquer le sens de certains mots, par exemple. Enfin, la signification de certains termes avait été clairement perdue. Donc, le monde dans lequel, je dirais, apparaissent ces commentaires du Coran, à partir de la deuxième moitié du 8e siècle, pour faire simple, est parti vraiment... Donc, un siècle et demi après la carrière de Muhammad, on voit qu'il y a eu une rupture quelque part malgré tout, des choses qui ont certainement été effectivement naturellement conservées, mais aussi beaucoup de points par rapport auxquels les savants musulmans eux-mêmes se révèlent démunis face à ce texte. Et c'est vrai que la forme même du Coran explique aussi certains de ces éléments. C'est un texte sans contexte, comme on dit parfois. Il n'y a pas de cadre narratif. Les différents chapitres, les sourates, sont rangés selon un ordre pour l'essentiel qui n'est pas thématique, mais qui est un ordre de longueur décroissante. Donc on a énormément d'éléments qui rendent l'abord de ce texte difficile. La traduction, évidemment, est difficile et très souvent, en réalité, les traducteurs modernes choisissent l'une des explications données par les commentateurs musulmans médiévaux, alors même qu'il existe d'autres explications dans cette littérature, ce qui effectivement fait que le lecteur qui lit aujourd'hui une traduction du Coran, par exemple, ou même le lecteur arabophone qui lit ce texte, qui est quand même un arabe assez archaïque, n'a pas d'accès direct au texte, mais a souvent un accès qui est médiatisé ou médié par toute une tradition d'interprétation qui peut-être se révèle discutable, et justement une partie du travail de ce livre, c'est d'essayer de revenir autant que possible au contexte originel de production et de réception du texte.
Alors justement, retrouver le contexte originel, comment? Quels sont les premiers matériaux, les premiers manuscrits du Coran? Ça remonte à quel, quoi, 150 ans après la mort des prophètes?
Disons que si on prend des témoins matériels du texte coranique, partiels, parce que ce ne sont pas des Corans entiers, oui. Alors, on a des grands débats sur la datation de ces témoins matériels parce que les choses sont particulièrement compliquées. Un chapitre entier, celui par Éléonore Sellard, dans le volume 1, est consacré à ce sujet. Et c'est un très bon chapitre, et à la fois très prudent et très bien informé. Mais disons que on peut penser que le texte coranique prend une forme très proche de celle que nous connaissons entre le début et la fin de la deuxième moitié du 7e siècle, et nous pourrions avoir des témoins matériels effectivement partiels datant de cette époque, avec des débats vraiment encore en cours parmi les chercheurs pour savoir exactement quand le texte prend forme et de quand datent exactement les plus anciens manuscrits. C'est relativement tôt par rapport à la carrière de Muhammad, c'est vrai, parce que le Coran a été manifestement transmis de manière assez centralisée, précisément, sous la férule du pouvoir politique. Ce qui fait une grande différence par rapport, par exemple, aux textes du Nouveau Testament, qui n'ont pas été transmis de cette façon-là.
Ali Amir Mouezzi.
Alors, il faut savoir, effectivement, bon, ce texte prend probablement sa forme que l'on connaît, la forme que l'on connaît dans la deuxième moitié du 7e siècle, mais ça ne veut pas dire que ce Coran-là a été accepté par tous les fidèles. Les sources islamiques elles-mêmes parlent de plusieurs Corans qui circulaient pendant plusieurs siècles. sur les terres d'islam, et pour cause, parce que effectivement, à cause des guerres civiles dont j'ai parlé, et l'écriture étant également, je veux dire, un enjeu de pouvoir et d'autorité, donc chacune de ces factions ou chaque groupe de factions avait sa propre version du Coran. Alors cette version officielle, c'est peut-être la version, on pourrait dire, califale ou la version impériale du Coran, mais qui va être acceptée pratiquement 3 siècles plus tard par tout le monde. C'est-à-dire que l'ensemble des musulmans mettent plusieurs siècles pour accepter la version officielle du Coran que l'on connaît.
La version canonique. Hein.
Voilà, la version officielle. Et si vous voulez, ça aussi, ça fait partie de ce caractère énigmatique. Et je dois ajouter que ce caractère problématique pour les pré-musulmans, qui peut paraître une sorte de faiblesse pour l'historien, en quelque sorte, la culture musulmane en a fait une force. C'est-à-dire que les musulmans ont vite compris que ce texte a besoin de commentaires. Et d'une certaine manière, ce qu'on pourrait appeler la culture savante islamique, c'est-à-dire les différentes disciplines, l'exégèse, le droit, la mystique, la philosophie, etc., a pris forme comme, à l'origine, comme des disciplines exégétiques.
Venu à la rescousse, si je puis dire, d'un texte énigmatique.
Voilà, c'est-à-dire pour essayer d'apporter des lunettes, entre guillemets, pour comprendre ce texte. Ce qui fait dire aux savants de l'islam que ce texte a plusieurs niveaux et ne se réduit pas justement à sa lettre. Il y a des sens cachés, et donc chaque auteur, selon sa discipline, les philosophes, les juristes, les mystiques, les théologiens, etc., ont essayé d'apporter des lunettes interprétatives pour comprendre le caractère problématique et énigmatique de ce texte.
Mais je reviens à ma question précédente. Quelle est la première preuve matérielle, j'allais dire, tangible du Coran? Quel est le premier manuscrit? On l'a trouvé quand? Est-ce que c'est ce qu'on a trouvé à Sanaa en 1972, je crois, c'est ça, dans le plafond d'une mosquée?
C'est une des possibilités, mais comme encore une fois, il y a de vastes débats sur la datation des plus anciens témoins matériels, on ne peut pas répondre de façon certaine. On a de très anciens manuscrits, ce qu'on appelle le Codex Parisiano-Petropolitanus, dont une partie est à la Bibliothèque nationale de France. On a le palimpseste de Sanaa. On a d'autres manuscrits éventuellement qui sont effectivement anciens, mais je dirais, il est difficile de dire quel est celui qui est réellement le plus ancien. Certaines datations carbone 14 ont donné des résultats aberrants d'ailleurs, donc il faut être assez prudent là-dessus.
Vous écoutez Religion du Monde. Nos invités sont Ali Amir Mouedzi et Guillaume Di pour Le Coran des historiens, publié aux éditions du Cerf. Alors, sur les influences juives et chrétiennes, est-ce que le Coran des historiens atteste plus encore effectivement ces influences, ou bien, bon, est-ce qu'on reste finalement à ce qui avait déjà été constaté il y a déjà bien longtemps par d'autres historiens?
Je crois que le Coran des historiens apporte de nouveaux éléments à ce dossier, hein. C'est-à-dire que les différents contributeurs, qui sont parfois des très grands connaisseurs justement de la littérature syriaque, éthiopienne, juive, etc., ont montré qu'il y a des sous-textes, parfois même le Coran semble être vraiment une traduction arabe de textes antérieurs. Alors, le mot qu'il faut utiliser, je ne sais pas si c'est vraiment l'influence. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que il s'agit d'une sorte de d'adoption et d'adaptation pour un milieu donné. C'est presque, je dirais, ce que fait le Coran. C'est des sortes de clauses interprétatives des doctrines ou des textes issus d'une culture biblique. Moi, je parlerais plutôt comme ça, c'est-à-dire que, si vous voulez, on a vraiment l'impression que nous avons affaire. Parfois, il y a un de nos auteurs, je crois que c'est Paul Neuenkirchen, qui a parlé d'hymne original arabe, mais très ancré, très enraciné, par exemple dans les prières, dans les hymnes syriaques. Donc, nous avons affaire vraiment, comme l'a dit, c'est-à-dire cette appartenance à la tradition biblique tardo-antique fait que nous avons affaire à un livre qui appartient à la tradition monothéiste biblique.
Oui, tout à fait. Je parlerai dans le même sens d'appropriation peut-être, avec éventuellement, dans certains cas, des phénomènes de transposition, éventuellement de subversion. Alors, on va donner un exemple, si vous voulez. Par exemple, dans la sourate 18, vous avez, entre les versets 59 et 82, deux histoires qui mettent en scène Moïse. La première, dans les versets 59 à 64, c'est une histoire qui paraît un peu étrange. C'est Moïse accompagné de son valet qui se dirige, qui cherche en réalité, on le sait, l'eau de la vie, la source de la vie éternelle. Et puis ils ont un poisson que le valet laisse échapper et qui finalement se fraye un chemin. Il s'agit là de façon très concise et très allusive, car le Coran est très allusif, ce qui explique justement qu'il soit si difficile à comprendre et d'accès si complexe. Nous avons là en fait une transposition d'une histoire plus ancienne, alors qui avait commencé avec les poèmes de Gilgamesh bien longtemps avant, mais qui, avant le Coran, avait été narré d'une façon très proche du récit coranique dans le roman d'Alexandre. Donc cette histoire, au départ, mettait en scène Alexandre le Grand et son cuisinier. Et là, l'histoire est transposée à Moïse et à son valet. Et puis juste au retour de leur périple, Moïse rencontre un personnage énigmatique, un serviteur de Dieu, dit le Coran, serviteur de Dieu que Moïse va accompagner et qui va commencer à faire un certain nombre d'actes tout à fait étranges et apparemment contraires à la morale. Alors là, ce qui est assez étrange, effectivement, c'est que c'est une autre histoire que l'on connaît, qui est présente, alors en tout cas le topos, le lieu commun du sage dérouté par les méandres de la justice divine, c'est quelque chose qui est un conte type, je dirais, qui existe. Et là, les récits que nous trouvons dans le Coran sont très proches de choses que l'on peut trouver dans la littérature chrétienne monastique en particulier, où par contre, ce type de récit met plutôt aux prises un moine et un ange. Et là, ça devient Moïse et le serviteur de Dieu non nommé, mais dont on peut penser qu'il est un ange. Donc le Coran s'approprie ces récits. Il écarte beaucoup de détails, on va dire, qui ne sont pas le sens de sa prédication. Et dans ce cas précis, au lieu de mettre en scène Alexandre et puis un moine, met en scène Moïse. Donc voilà, c'est un exemple typique d'appropriation d'un récit existant que le Coran, donc, si je puis dire, coranise, entre guillemets, et dont il fait quelque chose de neuf, avec des matériaux préexistants dans les cultures juives et surtout chrétiennes de la fin de l'Antiquité.
Alors cette coranisation de la Bible dans certains passages du Coran, Ali Amir Mouadi.
Guillaume a dit quelque chose rapidement, mais qui est extrêmement important, c'est-à-dire c'est le caractère allusif de ces récits. C'est-à-dire que, si vous voulez, on ne comprendrait pas l'histoire de Moïse ou d'Abraham par le Coran. Hein, on a des bribes de ces histoires-là, d'ailleurs éparpillées dans différents endroits du Coran. Mais ce caractère allusif montre quoi ? Que les auditeurs ou les lecteurs connaissaient ces histoires-là. Donc n'avaient pas besoin d'avoir toute l'histoire pour avoir une compréhension globale. Donc ceci montre également que nous avons affaire à un milieu qui connaît très bien la culture biblique.
L'archéologie a été la discipline qui manifestement a fait progresser de façon importante la compréhension du Coran. Vous pensez, Guillaume Di, par exemple, à quelle découverte ?
Alors, il y a plusieurs choses. Alors, d'une part, l'archéologie et l'épigraphie, donc l'étude des inscriptions.
Oui. Donc, le Coran des pierres, voilà, ce qu'on appelle le Coran des pierres, c'est
ça ? Et aussi les inscriptions pré-islamiques qui nous renseignent beaucoup sur l'Arabie pré-islamique, c'est effectivement des disciplines qui étudient des documents matériels, on dira, donc non pas des sources littéraires, et qui ont totalement révolutionné l'étude de l'Arabie pré-islamique et donc la compréhension du paysage religieux de l'Arabie pré-islamique, et également l'étude des conquêtes ou de la dissémination, je dirais, épigraphique de tel ou tel verset du Coran. Un ennui quand même que nous avons, c'est que la région de l'Arabie qui devrait être la plus centrale pour notre travail, à savoir le Hijaz, l'Arabie occidentale et notamment la Mecque et Médine, sont précisément des régions qui n'ont pas pu être fouillées, dans lesquelles les fouilles ne sont pas permises, et même si dans quelques décennies, par exemple, nous avons un régime différent et plus ouvert en Arabie Saoudite, les dégâts, qui ont été faits par les autorités wahhabites sont considérables.
C'est-à-dire
que les constructions énormes qui ont été faites à la Mecque ou autre font que la possibilité d'un travail archéologique qui permette d'en apprendre un peu plus sur la Mecque ancienne sont effectivement, on a là de vraies craintes. Donc il y a des limites, mais quand même, ça a permis de changer beaucoup de choses. D'autres découvertes intéressantes qui ont été faites, dont on va retrouver des traces dans le commentaire de la sourate 19, qui est faite par notre collègue danoise Mette Bjergard Mortensen, c'est à la suite de travaux, effectivement, que d'autres contributeurs du courant des historiens ont mené, à savoir Stephen Shoemaker et moi-même, c'est le fait que une église de Palestine, l'église du Kathisma de Marie, qui est une église importante, qui a été le modèle architectural du Dôme du Rocher à Jérusalem. Cette église dont on a retrouvé les traces à la fin du XXe siècle. On connaît aussi un certain nombre de choses sur les traditions populaires et liturgiques qui étaient liées, et ces traditions populaires et liturgiques sont très vraisemblablement à l'arrière-plan des récits sur Marie et Jésus dans la sourate 19. Donc là aussi, l'étude textuelle des sources chrétiennes, par exemple, et les documents archéologiques convergent, je dirais, pour mettre en contexte, dans ce cas précis, un contexte palestinien, la sourate 19 dans le Coran. Je rappelle que le palmier dont il est question dans cette sourate 19, palmier près duquel se repose Marie, qui est lié à une légende chrétienne, on a retrouvé des palmiers dans les mosaïques de cette église, et il y a des affinités considérables entre les mosaïques de l'église du Kathisma et celles du Dôme du Rocher. Bon, on pourrait développer, le livre le fait, hein, mais c'est pour donner l'exemple de cas assez merveilleux, je dirais, où l'étude des sources littéraire et celle des documents archéologiques convergent pour donner un contexte au courant.
Et est-ce qu'il y a des moments où ça ne converge pas du tout, ça contredit ? Ou justement l'archéologie vient dire non, ce qui est raconté c'est pas ça.
L'exemple très simple, c'est justement l'archéologie ne nous montre pas une Arabie pré-islamique peuplée de païens ou d'idolâtres, mais nous montre une Arabie pré-islamique, au moins pour une grande partie de l'Arabie pré-islamique, avec d'importantes communautés monothéistes. Dans le cas de l'Arabie du Sud, par exemple, à partir de la fin du 4e siècle, il n'y a plus une seule inscription polythéiste.
Oui, tout à fait. Je vais dans le même sens. Effectivement, ça fait partie aussi des données qui font que nous devons avoir une lecture extrêmement critique des sources islamiques, c'est-à-dire de reconnaître leur caractère apologétique et politique en ce qui concerne les origines de l'islam.
Alors, ce mot critique, je me suis souvent posé la question, hein, approche historico-critique. On peut le lire effectivement pour le christianisme, le judaïsme, etc., puisqu'il s'agit d'une démarche scientifique. Mais est-ce que ce mot-là n'est pas un mot qui est mal compris, approche critique, et justement qui crée des résistances, hein, du côté musulman notamment, quant à votre démarche, parce que le mot critique, c'est comme si ça voulait dire critiquer. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre mot à trouver, même si celui-là correspond effectivement à une démarche scientifique ?
Non, je pense que c'est un beau mot et que...
Critique, si ça veut dire quoi ? Ça veut dire distancier, c'est ça ?
Ça veut dire distancier, c'est-à-dire, ça veut dire contextualiser, ça veut dire une démarche qui peut relativiser les choses, c'est une démarche qui introduit l'histoire et la géographie dans l'étude des choses. Donc effectivement, c'est-à-dire c'est une approche qui a pour organe principal la raison. C'est peut-être différent, je dirais, d'une approche confessionnelle qui a pour organe principal le cœur. Donc l'historien a un regard froid, distancié, et qui est en quelque sorte guidé par sa raison, éduqué par l'étude, par la recherche. Donc je ne pense pas que ça soit un mot à bannir. Au contraire, c'est-à-dire il faut peut-être ouvrir la définition que l'on a de ce texte-là,
l'expliquer,
et surtout du côté des croyants. Vous savez, ça a été un peu la même chose. Les croyants chrétiens et juifs n'ont pas accepté non plus très facilement cette approche-là. Ça a pris quelques siècles. Ça a pris quelques siècles et quelques conflits en Occident. Ça serait peut-être la même chose du côté musulman. Mais je pense que c'est une démarche absolument nécessaire, parce que c'est une démarche qui, en quelque sorte, sur le plan intellectuel, qui est certainement la démarche la plus efficace pour neutraliser le fanatisme et les sentiments exacerbés.
Guillaume.
Oui, c'est vrai que l'expérience, je dirais, vécue pour un croyant d'être amené à lire le texte avec des lunettes différentes, une distance différente, peut s'avérer tout à fait... alors, à la fois, ça peut effectivement le faire sortir de sa zone de confort, parfois, mais l'objectif de l'approche historico-critique n'a jamais été d'attaquer ou de critiquer la foi. L'objectif est de mieux comprendre un texte. Alors, il est vrai qu'il peut y avoir des gens qui vont, par principe, rejeter toute approche historique, pour la bonne et simple raison que pour eux, ça consisterait à ne pas reconnaître ou ne pas partir du principe et du seul et unique principe que le Coran serait la parole même de Dieu. Bon,
oui, dans ces cas-là, incréée, oui.
Dans ces cas-là, on ne peut pas beaucoup discuter, mais beaucoup de musulmans sont beaucoup plus ouverts que cela. Et je dirais, l'approche historico-critique, je reprends, je garde le terme, parce qu'il a une histoire, parce qu'il a, je dirais, un pédigré quelque part, c'est quelque chose qui a fait ses preuves et qui a apporté beaucoup à la compréhension des textes religieux du judaïsme et du christianisme. Cette approche-là permet, et est absolument indispensable, je dirais, pour lire le texte d'une façon intellectuellement honnête. Et ça, c'est quelque chose qu'il importe de rappeler. L'approche critique est justement celle qui consiste à lire le texte de la manière la plus honnête possible.
La question de la violence. Alors, certains, semble-t-il, sur les réseaux sociaux, vous en fait le reproche de minimiser la question de la violence dans le texte coranique. Ali Amir,
je ne pense pas que nous l'ayons minimisé. Simplement, nous avons essayé d'expliquer,
de contextualiser.
Et notre collègue, l'éminent savant allemand Karl Friedrich Pohlmann, je crois, a fait un commentaire excellent de ces sourates, surtout les sourates 8 et 9 qui contiennent les versets les plus violents. Et justement, pour dire combien ces versets sont ancrés dans l'histoire de ce moment-là.
Par exemple, tuez les tous, ce passage,
oui.
C'est après une défaite, c'est ça, après une bataille?
Oui, c'est-à-dire, c'est vraiment dans le contexte de guerre, oui. Entre différentes de factions qui existaient à l'époque. Et Pohlmann montre qu'également, c'est-à-dire parmi les fidèles, peut-être, du messager coranique, ces fidèles n'étaient pas aussi monolithiques que cela. C'est-à-dire qu'il y a au moins deux tendances. Il y a une tendance plutôt non militante et pacifiste et plutôt apocalyptique qui pense que la fin du monde est proche et que donc il faut pratiquer la compassion, la prière et l'aumône. Et puis une tendance plutôt militante et conquérante qui cherche le pouvoir et le butin. Donc c'est très important justement de contextualiser. Et je pense que, si vous voulez, pour revenir à l'approche historico-critique, c'est que je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Guillaume sur la lecture honnête, c'est que, contrairement à ce que l'on pense, ça peut même consolider la foi. Ça peut consolider la foi, c'est-à-dire dans le sens où, effectivement, je pense que un croyant ne doit pas avoir peur de la raison. Et ne doit pas faire seulement confiance à son sentiment et à son cœur. C'est-à-dire qu'une foi qui est également ancrée dans la raison est une foi plus solide, plus honnête, qu'une foi qui est seulement basée sur l'émotion.
Oui, sur la défensive.
Sur la défensive.
Oui, Guillaume dit.
Oui, pour revenir au commentaire de notre ami Karl Friedrich Pohlmann, ce qu'il montre de manière remarquable et qu'il a est vraiment une nouveauté, quelque chose qui n'avait pas été montré auparavant, c'est justement que la manière dont sont composées ces sourates, les sourates 8 et 9, permet de comprendre qu'elles reflètent quelque chose de particulier sur le contexte de la communauté autour de la constitution de ces textes, et de voir justement, comme l'a dit Ali, l'existence d'au moins deux courants différents. L'un qui est théiste, probablement pacifiste effectivement, qui a une conception de la piété dans laquelle la militance armée sur le chemin de Dieu n'apparaît jamais, et qui est ce qu'on trouve dans d'autres passages du Coran, et qui était manifestement une idée très présente dans la communauté autour du Coran. Et puis un autre groupe, celui qui est responsable de la rédaction de la majeure partie de ces sourates 8 et 9, qui polémiquent contre d'autres membres de la communauté. C'est-à-dire que ces textes polémiques que nous lisons dans les sourates 8 et 9, qui sont évidemment très polémiques contre les adversaires de la communauté, contre les incroyants, contre les associateurs, ce sont également des textes polémiques contre d'autres membres de la communauté, entre guillemets, musulmane. Et donc, ça contextualise et ça rend compte de la complexité même du texte coranique et des tensions qui le traversent. Et
je voudrais même parler, si vous voulez, du point nodal que vous avez souligné, c'est-à-dire la perception du Coran par les croyants comme la parole incréée de Dieu.
Oui.
Ce dogme que l'on croit éternel, n'est-ce pas, et consubstantiel en quelque sorte avec l'islam, a une histoire. C'est un dogme tardif. C'est un dogme qui date du 9e siècle, hein, c'est-à-dire du 8e, 9e, c'est-à-dire des siècles après la naissance du Coran et la vie du prophète. Et que, avant cette date, il y a eu énormément de débats sur la nature, justement, du Coran. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens ne pensaient absolument pas que le Coran est la parole incréée de Dieu. Au contraire, il y avait plutôt des thèses sur le fait que le Coran étant en arabe, c'est une langue humaine, et qu'une mystérieuse langue divine a été passée par le filtre humain, et que donc, effectivement, c'est une parole créée.
Aujourd'hui, on peut le dire.
Oui, on peut même étudier l'histoire de ce dogme de la parole incréée de Dieu. C'est un dogme qui a une histoire et dont la naissance est tardive. Et dont la naissance dépend véritablement des conditions politiques de l'époque, c'est-à-dire, bon, c'était une initiative contre les Mu'tazilites, contre les théologiens. Donc c'est un contexte très précis.
Très précis, donc cela veut dire que peut-être un jour, ça ne sera plus un tabou de dire que le Coran
n'est pas sacré. Dans le monde chiite, ce n'est pas un tabou, puisque c'est effectivement une partie de la théologie chiite, et le retour de courant qui se réclame du mu'tazilisme aujourd'hui va dans ce sens. Voilà.
Je terminerai par votre introduction, Ali Amir Mouedzi et Guillaume Di. Vous parlez d'initiative civique et politique au sens le plus noble du terme pour définir ce qu'est ce Coran des historiens.
Oui, c'est-à-dire que, si vous voulez, c'est une approche qui se veut en quelque sorte au-delà ou complètement distinguée des approches aussi bien apologétiques que polémiques. C'est-à-dire des approches qui considèrent que ce texte est une parole effectivement créée de Dieu et que donc il n'y a absolument aucune recherche scientifique à faire sur ce texte-là. C'est un texte sacré, c'est un dogme. Et puis de l'autre côté, ceux qui considèrent le Coran comme un document de conquête et de violence. Donc ce n'est ni l'un ni l'autre. Et effectivement, nous pensons que l'approche historiocritique, l'approche distanciée, l'approche qui relativise et qui contextualise peut neutraliser justement les sentiments exacerbés aussi bien du côté des croyants que de ceux qui les attaquent.
Oui, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les attaques les plus virulentes que nous avons reçues viennent justement des gens qui nous reprochent de ne pas faire du Coran un texte totalitaire, purement violent, et de gens qui nous reprochent de l'historiciser, de ne pas y voir la parole même de Dieu. Le fait qu'il y ait des réactions parfois violentes, en tout cas virulentes de certains, est aussi un élément qui montre que le livre était nécessaire. Il faut aussi ajouter que nous avons quand même une réception tout à fait positive de beaucoup de personnes, y compris de personnes de confession musulmane.
Je vous remercie Guillaume Di, je vous remercie Mohamed Ali Amir Mouedzi pour votre présence, vos explications à propos donc du Coran des historiens, publié aux éditions du CERF. Merci.
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 C'est la fin de Religion du Monde. On se retrouve dimanche prochain. Bonne semaine à tous.